Chapitre 18e. Le Goffin, depuis une demi-heure environ, se promenait avec une inquiétude croissante dans un couloir où donnait la porte d'un petit salon précédant la chambre à coucher de Sabine. De temps à autre, le maître canonnier prêtait l'oreille avec attention et n'entendait rien qu'un bruit confus. Enfin, il vit sortir Suzanne qui s'essuyait les yeux. « Eh bien, lui dit-il vivement et avec anxiété, comment va, mademoiselle ? Qu'est-ce qu'il y a encore, Suzanne ? Répondez, répondez donc ! Vous me demandez ce qu'il y a ? Brutale Cosette ? Lorsque votre scène de violence de ce matin envers cet honnête négociant, qui est si poli, a jeté mademoiselle dans une horrible crise nerveuse ? Admettons que j'ai eu tort. Cette crise avait heureusement cessé. Monsieur Yvon me l'a dit en venant me retrouver au jardin. Oui, cette crise avait cessé, mais mademoiselle était restée dans une prédisposition si nerveuse que ce qui est arrivé ensuite l'a replongée dans un état très alarmant. Eh, morbleu, je sais l'affaire du saut de loup, parlez-moi de ce qui est arrivé ensuite. Certes, vous devez savoir cette affaire, vieux forcené, précipiter cet aimable homme au fond de ce fossé. Suzanne, reprit le Goffin d'une voix grave et émue, au nom de l'attachement que nous portons tous deux à nos maîtres, je vous en supplie, dites-moi ce qui est arrivé. » L'accent pénétré du vieux serviteur toucha Suzanne. « Eh mon Dieu, reprit-elle, vous savez bien que j'en suis certaine de votre affection pour nos maîtres. Seulement vous avez parfois de si sauvages façons d'agir, et ce matin encore... Allons, n'en parlons plus. Il y a une heure, je suis donc venu chercher monsieur là-haut. Ensuite, monsieur est accouru auprès de mademoiselle. Elle a pleuré beaucoup, et cela, comme toujours, l'a un peu calmé. Monsieur a aussi beaucoup pleuré. Lui, que s'est-il donc passé ? Hélas ! Le seul chagrin de sa vie s'est ravivé, plus douloureux que jamais. Comment ? La mort de cette pauvre madame. Et qui l'a rappelé à monsieur Yvon ? Sa fille. Mademoiselle Sabine ? Oui. Jugez combien ce coup a été cruel pour lui. Que dites-vous là ? S'écria le Goffin avec effroi. Mademoiselle Sabine sait donc ce malheureux secret ? Elle ? Dieu merci, elle l'ignore. Elle l'ignorera toujours, je l'espère. Alors, Suzanne, je ne vous comprends plus. Tenez, dit la gouvernante en tirant un papier de sa poche, voici ce qui a causé tout le mal. Qu'est-ce que cela ? Le journal de ce matin. Eh bien, il contient de nouveaux détails sur ce fameux corsaire, le capitaine l'endurci. C'est donc cela, dont cet animal d'armateur nous parlait tantôt, se dit le Goffin, et il ajouta tout haut, « Mais quel rapport ce journal peut-il avoir ? Écoutez ce passage, le Goffin. Celui-là seul est important, et alors vous comprendrez tout. » Suzanne ouvrit le journal et lut le fragment suivant d'un article intitulé « Nouveaux détails sur le célèbre capitaine l'endurci. » Il n'est pas jusqu'à l'extérieur du capitaine qui n'ajoute encore au prestige dont il est entouré, car chacun de ses matelots est un séide capable de se dévouer pour lui jusqu'à la mort. Cet intrépide corsaire est âgé de 40 ans environ. Sa taille moyenne est à la fois svelte et robuste. Sa physionomie mâle et expressive. Son œil d'aigle, le port impérieux de sa tête, son allure décidée, tout décèle en lui l'homme né pour le commandement. L'on ignore son véritable nom et son origine, mais plusieurs pensent qu'il est breton. Si l'on en juge, disent les uns, d'après le costume qu'il porte invariablement pendant ses croisières, d'autres pensent au contraire que le capitaine l'endurci est méridional et qu'il n'adopte le costume breton que parce qu'il est, par sa forme et par sa commodité, parfaitement approprié aux fonctions et aux habitudes du marin. Quoi qu'il en soit, nous croyons intéresser nos lecteurs en leur donnant, d'après un témoin oculaire, une description exacte du costume que ce célèbre corsaire a toujours porté à son bord depuis qu'il fait la course. L'on dit même qu'il attache à l'usage de ce costume une idée superstitieuse. Le capitaine l'endurci est habituellement vêtu d'une veste et d'un gilet noir, rehaussé de petits boutons d'argent. Une large ceinture orange, qui supporte aussi ses armes, sert à sa taille d'ample braies de toile blanche, semblable aux morphes des pêcheurs hollandais ou aux jupes des pilotes de l'île de Batz. De grandes guêtres de peau et un large chapeau, très bas de forme, complète ce costume à la fois commode, sévère et pittoresque. Puis, après avoir lu ce fragment, la gouvernante ajouta « Vous le voyez, le Goffin, Le hasard veut que ce corsaire porte un costume breton pareil à celui que portait M. Cloarec lors de cette nuit funeste où Madame est morte et... Ah ! S'écria le Goffin en interrompant la gouvernante. Je tremble de deviner. À cette lecture, Mademoiselle Sabine a cru reconnaître dans ce corsaire le personnage mystérieux qu'elle croit être le meurtrier de sa mère. Hélas, oui, le Goffin. Aussi, dans une sorte de délire, a-t-elle dit à M. Cloarec « Mon père, le meurtrier de ma mère existe. Ne la vengerez-vous pas ?» Jugez du désespoir de M. Cloarec. Détromper sa fille, c'est pour ainsi dire s'accuser lui-même. Mais ce journal de ce matin, mademoiselle l'a donc lu après l'arrivée de M. Yvon ? Mon Dieu, oui. Voici comment cela s'est passé. L'émotion que lui avait causée votre algarade de ce matin, soit dit sans reproche, le Goffin, était déjà calmée. Mais la chère enfant éprouvait encore ces tremblements nerveux qui, chez elle, succèdent toujours à ces crises. Vers les 11 heures, monsieur est rentré. Il avait l'air rayonnant. Mon neveu l'accompagnait tout aussi joyeux. « Ma fille est chez elle, » me dit gaiement monsieur Cloarec. « J'ai une bonne nouvelle à lui apprendre. » Là-dessus, le Goffin, sans être rapporteuse, « Je suis bien obligé de raconter à monsieur votre affaire du saut de loup avec ce digne négociant poudré qui a des manières si gracieuses. » Et l'effroi que votre violence a causé à mademoiselle. Nécessairement, mais continuez. Monsieur court chez sa fille, la trouve presque tout à fait remise, se rassure, lui recommande le calme, le repos, et va vous rejoindre. Il avait dit à mon neveu d'aller tout de suite s'occuper dans sa chambre de je ne sais quelle note qu'il lui avait demandé. Et par parenthèse, le pauvre garçon y est encore dans sa chambre. Je n'ai pas voulu l'attrister en allant lui conter ce qui vient d'arriver à mademoiselle, mais cela ne fait rien à la chose. Je reste donc auprès de cette chère enfant. Thérèse, comme à l'ordinaire, apporte le journal. Alors, j'ai la malheureuse idée, pour distraire mademoiselle, de le lui donner à lire. Aussi, qu'est-il arrivé? C'est qu'au passage où l'on décrit le costume de ce corsaire, elle a jeté un cri affreux et... « Mais tenez, » dit Suzanne en s'interrompant, « voilà monsieur. » En effet... Cloarec, pâle et les traits empreints d'un sombre désespoir, sortait de la chambre de sa fille. Suzanne, retournez près d'elle, je vous prie, dit-il à la gouvernante d'une voix altérée, elle vous demande. Puis s'adressant à le Goffin, toi, viens. Le vieux serviteur suivit silencieusement son maître dans sa chambre à coucher. Cloarec, se jetant alors dans un fauteuil, donna un libre cours à ses larmes, jusqu'alors contenu par la présence de Sabine. Il cacha sa figure entre ses mains et poussa de sourds gémissements entrecoupés de sanglots déchirants. À l'aspect de ces douleurs poignantes, le Goffin, qui s'émouvait rarement, sentit son œil devenir humide et, debout près de son maître, il resta silencieux, abattu. Au bout de quelques instants, Cloarec s'écria d'une voix entrecoupée « Oh, que j'ai souffert ! Oh, que je souffre !» « Oui, je vous crois, monsieur Yvon, » dit tristement le Goffin. « Suzanne m'a tout dit. Ce journal, c'est bien malheureux. »« Non, vois-tu, » s'écria Cloarec avec un redoublement de désespoir. « Non, il est impossible de se figurer combien le terrible souvenir de cette nuit funeste est resté présent à la pensée de cette malheureuse enfant. » Je frissonne encore en songeant avec quelle expression d'épouvante et d'horreur elle s'écriait, presque en délire, en me serrant convulsivement entre ses bras. « Père, père, cet homme, ce meurtrier de ma mère, il existe !» Et comme, dans ma stupeur, je la regardais sans lui répondre, elle m'a dit avec l'énergie de la haine, « Mais père, il vit ! Celui qui a tué ma mère, celui qui a tué ta femme, ce meurtre, il crie vengeance, et cet homme vit encore !» Et pour la première fois, sur la douce figure de ma fille, je lisais l'expression de la haine. Et de cette haine, je suis l'objet. Ah, tiens ! Cette scène horrible a rouvert ma plaie, ravivé mes remords, et tu sais pourtant si j'ai assez souffert, si j'ai assez expié. Un moment d'entraînement fatal. Tenez, monsieur Yvon, ce qu'il y a de pire dans tout cela, reprit le Goffin après un moment de silence, c'est la trame de cet armateur que l'enfer confonde. C'est à en devenir fou, car si je reste auprès de ma fille, l'équipage du brick arrivera ici. C'est certain, vous connaissez nos hommes. Oui, et Sabine alors apprendra ainsi que moi, le capitaine l'endurci et le meurtrier de sa mère, c'est tout un. Et cet enfant, sur laquelle j'ai depuis tant d'années concentré toutes mes affections, cet enfant qui est ma vie, ma seule consolation, mon seul espoir. Cet enfant n'aura plus pour moi qu'aversion et horreur. Et pourtant, tu le sais, toi, toi seul, le véritable et étrange secret de cette vie, dont ma fille me fera un crime, et pourtant ce secret, s'il était révélé, me donnerait peut-être le droit d'être fier et glorieux. Mais non, non, elle doit toujours ignorer ce mystère, elle. Et je n'aurai rien, rien, pour combattre l'aversion que ma vie passée doit inspirer à mon enfant. Mais c'est affreux, s'écria Cloarec avec un accent déchirant. Et après quelques minutes de sinistre réflexion, l'œil égaré, les lèvres contractées par un sourire sardonique, il murmura, se parlant à lui-même. « Bah, elle est riche, elle aime un honnête homme, elle en est aimée. Suzanne et le Goffin lui resteront. Au lieu de m'abhorrer, elle me pleurera, et pour elle, ma mort sera environnée du même mystère que ma vie. » Cloarec, en disant ces mots, s'était avancé vers un meuble sur lequel était placée une paire de pistolets. Le Goffin n'avait pas perdu son maître du regard. Sautant sur les pistolets avant que le capitaine eût pu s'en emparer, il profita d'un premier moment de surprise de celui-ci pour ouvrir les bassinets et répandre les amorces sur le plancher. Puis il replaça froidement les armes à leur place. « Malheureux !» s'écria Cloarec, hors de lui-même, saisissant le vieux serviteur au collet. « Tu paieras cher ton audace !»« Allons, monsieur Yvon, pas d'enfantillage, revenez à vous !»« Ces pistolets ?» poursuit Cloarec. « Pourquoi les as-tu désarmés ?» Et il secoua vigoureusement le Goffin, qui répondit tout en cédant aux brusques oscillations que lui imprimait le rude poignet de son maître. « Monsieur Yvon, le temps presse et se passe. Vous avez mieux à faire qu'à secouer votre vieux Goffin, comme un arbre dont on veut faire tomber les fruits. Je vous le dis, le temps presse, se passe, et il est précieux. » Le sang-froid du maître canonnier rappela Cloarec à lui-même. Il murmura, en retombant sur son siège avec accablement. « Tu as raison, je suis insensé. Tiens, le Goffin, aie pitié de moi. » « Allons, mordieu, monsieur, est-ce vous qui parlez ainsi ?»« Eh, que veux-tu que je te dise? Que veux-tu que je fasse? Ma tête est en feu, j'ai le vertige. »« Est-ce mon avis que vous me demandez ?»« Parle toujours. Il faut aller au Havre. Abandonner Sabine dans l'état où elle se trouve, redoubler ses alarmes par un départ précipité, par une absence incompréhensible pour elle après mes promesses, l'abandonner enfin au moment même où elle n'a jamais eu plus besoin de mes soins, de ma tendresse, au moment de la marier peut-être. Mademoiselle Sabine, oui, ce mariage m'avait d'abord déplu, et à cette heure, j'ai confiance pour l'avenir de ma fille. Mais il faut pour cela que je puisse la guider, entourer ses deux faibles enfants d'une constante et paternelle sollicitude. Et c'est dans un pareil moment que j'irai reprendre la mer, risquer encore ma vie, lorsque jamais elle n'a été plus nécessaire à Sabine, car maintenant je retrouve mon sang-froid, ma raison, et je le sens. Tout à l'heure j'étais fou de vouloir me tuer. Merci à toi, mon vieux et fidèle serviteur. C'est un crime que tu m'as épargné. Je voudrais vous épargner de même la visite de l'équipage du corsaire, monsieur Yvon. Il ne faut pas oublier ce danger-là. Si vous n'allez pas à eux, ils viendront à vous. C'est moi qui vais aller à eux, s'écria Cloarec, frappé d'une idée subite. « Oui, je vais à l'instant partir pour le Havre, et annoncer à mes matelots que j'ai renoncé à la mer. Ils ne m'imposeront pas leur volonté. Ils savent si mon caractère est énergique, si je cède aux clameurs. Tu m'accompagneras. Tu as aussi sur eux de l'influence. Elle me sera nécessaire. C'est le seul moyen de conjurer le péril qui me menace. Il est 2 heures. À 3 heures, nous serons au Havre, et à 5 heures au plus tard, de retour ici. Ma fille repose un peu. » Et elle ne se doutera seulement pas de mon absence. Allons, viens. Pour ne donner ici aucun soupçon, nous prendrons un cabriolet à l'auberge. » Au moment où Cloarec se dirigeait vers la porte, le maître canonnier qui n'avait pu l'interrompre l'arrêta et lui dit d'un ton grave « Monsieur Yvon, vous faites fausse route. Que veux-tu dire? Si vous mettez le pied au Havre, vous ne serez de retour ici qu'après la croisière. Tu es fou. Je ne suis pas fou. Mon équipage m'enlèvera de force, n'est-ce pas? C'est probable. Et ma volonté? C'est votre volonté que je crains. Finiras-tu ces énigmes? Une fois en présence de nos matelots, vous n'aurez pas la force de leur résister. Moi? Non. Après les raisons que je viens de te donner, rien n'y fera, croyez-moi. Vous allez vous retrouver face à face, cœur à cœur, avec ces enragés qui, tant de fois, ont avec vous bravé mer et tempête, feu, fer et plomb. Vous allez flairer le goudron et la poudre. Ces démons vont vous parler à leur manière du capitaine Black, le pourvoyeur des pontons, et alors, je vous dis, moi, que malgré vous, vous vous sentirez, comme vous savez. Et quand vous êtes comme ça, le diable n'est pas votre maître, et le bon Dieu encore moins. Je t'ai dit qu'à 5 heures je serai de retour ici, sans que ma fille se soit aperçue de mon absence. Tes craintes sont folles, bien, vous le voulez? Suis-moi. Ce qui sera, sera, dit le goffin, en suivant son maître et en secouant la tête. Après s'être informé auprès de Suzanne de l'état de Sabine, et avoir appris qu'elle continuait de reposer, Cloarec, accompagné de son maître canonnier, sortit de sa maison et partit pour le Havre.